Matière à penser, Dominique Rousset.
Bonsoir à tous, c'est la suite de notre série « Le capitalisme est-il soluble dans le 21e siècle ?» Nous recevons ce soir un philosophe chargé de recherche au CNRS. Il travaille depuis une thèse remarquée qui est publiée depuis, où il était question de Durkheim, de Lévi-Strauss et de Philippe Descola. Sur les liens entre l'histoire de la pensée politique moderne et la question des ressources, il travaille à présent sur la manière de rapprocher les sciences sociales, l'anthropologie notamment, mais aussi la sociologie et l'histoire des questions environnementales. Dans cet objectif, il s'appuie sur des travaux historiques, économiques, remontant jusqu'à l'apparition des préoccupations environnementales. Elles n'ont pas toujours ce nom, elles ne l'avaient pas encore au début, dans nos sociétés industrielles, et relevant aussi les obstacles qu'elles rencontrent. Il s'agit pour lui donc de développer l'écologie politique à travers un échange constant avec les sciences sociales de la nature et plus directement, comme il le dit lui-même dans la présentation de son prochain livre à paraître dès janvier, de contribuer, je cite, à la politisation du problème environnemental. Ceci passe bien sûr par une réflexion sur la conduite des affaires économiques dans le monde et sur le modèle dominant, bien vivant, qui nous intéresse, le capitalisme. Bonsoir Pierre Charbonnier.
Bonsoir.
Pierre Charbonnier, donc, je l'ai dit, philosophe, mais une réflexion de philosophe bien indispensable dans le débat qui nous occupe. Je voudrais vous lire, pour commencer, lire ce prochain livre à paraître dès janvier. Durant le temps nécessaire à l'écriture de ce livre, dites-vous, la concentration de CO2 atmosphérique a franchi des niveaux impressionnants. La population d'insectes volants s'est encore réduite et lors de cette même période de 5 ans, le paysage politique mondial a subi des transformations tout aussi sidérantes. Donald Trump aux États-Unis 2017, Jair Bolsonaro au Brésil 2019, le Brexit également, dès juin 2016, autant d'événements souvent interprétés comme la désagrégation de l'ordre libéral. C'est ce qui vous frappe le plus, cette accélération, Pierre Charbonnier?
Oui, effectivement, c'est ce qui m'avait frappé au moment d'écrire l'introduction de ce livre.
Pendant 5 ans, oui.
5 ans, à peu près 5 ans, oui. Entre le moment où j'ai démarré et le moment où j'ai rendu ma copie à l'éditeur, la concentration de CO2 dans l'atmosphère avait plus augmenté que pendant plusieurs décennies au milieu du XXe siècle, et même encore beaucoup plus que pendant plusieurs dizaines de milliers d'années avant l'ère industrielle. C'est une manière un petit peu commode de dire que ce qui est en train de nous arriver, c'est absolument inouï, c'est d'une magnitude extraordinaire. Et si, alors bon, nous, les philosophes, les intellectuels, mais aussi les citoyens, n'arrivons pas à faire sens de ce choc, eh bien, nous ne saurons simplement pas à l'encaisser.
Et j'ajoute d'ailleurs ce que vous dites, 5 ans suffisent donc à enregistrer des mutations capitales, suffisent à regarder un passé pourtant proche comme un univers totalement différent de celui dans lequel on évolue désormais, vers lequel on ne reviendra jamais. Tout cela, nous allons le commenter. La rapidité de ces évolutions nous laisse aussi devant une question plus sombre, dites-vous. Où en serons-nous lorsque 5 ans de plus se seront écoulés?
Oui, vous savez que par exemple, le GIEC a donné un créneau de 12 ans aux grandes nations pour régler leurs problèmes d'émissions carbone, c'est-à-dire un objectif à 2030 de réduction, je crois, de 40% des émissions pour tenir l'objectif des 1,5 degrés d'augmentation.
Bon, en fait, on sait déjà qu'il plus personne ne croit.
Même 2 devient très
problématique.
Voilà. Mais en attendant, c'est quand même une manière de faire sentir que le monde dans lequel les organisations économiques, les modes de relation aux ressources, les formes politiques, institutionnelles, démocratiques s'étaient construites, était un monde globalement stable. C'était plus ou moins toujours le même monde entre, mettons, les grandes découvertes de Christophe Colomb et l'ère du capitalisme redistributeur keynésien. Aujourd'hui, ce monde n'existe plus, il n'existera plus jamais. L'accumulation des risques, des transformations de la Terre se manifeste déjà par des conséquences très simples. C'est pour ça que vous parliez de Bolsonaro, Trump, le Brexit. Surtout Bolsonaro et Trump, c'est absolument manifeste que ces forces politiques-là résultent de la volonté de tenir un modèle économique quitte à faire exploser le cadre démocratique. Et ce modèle économique, c'est celui qui est piloté par les énergies fossiles, par les objectifs de croissance et par la volonté de conserver des îlots de prospérité dans un monde ou dans un reste du monde où de plus en plus de choses s'effondrent.
Oui, on est très frappé notamment des récentes déclarations de Donald Trump quittant les accords de Paris, comme on le sait, les accords de 2015. Au bout de 3 années donc écoulées, ils ont pu le faire. Et la manière dont il l'a fait, comme si tout d'un coup il retrouvait la liberté. Or, c'est tout à fait l'inverse qui se passe.
Oui, vous savez,
il y
a quelques mois, un terminal gazier a été ouvert au Texas, je crois. Un document a été rédigé par l'administration américaine des énergies. Et dans ce document, le nom du responsable m'échappe, mais peu importe, parle du gaz, donc d'une énergie fossile, comme d'atomes de liberté américaine.
Atomes
le gaz,
de liberté.
Ce sont les atomes de liberté. Et cette formule, elle est absolument frappante parce que elle dit bien à quel point la conception, mais que nous aussi nous faisons de notre émancipation, tient sur la capacité à accéder à des quantités massives d'énergie, de pas n'importe quelle énergie, énergie très concentrée, que sont les énergies fossiles.
Face à cette réalité donc politique, hein, l'arrivée de ces dirigeants et aussi climatique, on peut observer aussi, toujours dans, mettons, dans nos fameux 5 ans qui vous ont servi à écrire ce livre, la multiplication des fronts de la contestation sociale. Et on l'observe aujourd'hui dans beaucoup de pays du monde, mais pour ne rester que sur le sol français, déjà, mobilisation des gilets jaunes, ça n'était pas rien, déclenché, il ne faut pas l'oublier, par un projet de taxe sur les carburants. Mais aussi, vous en parlez, l'invention de nouveaux rapports au territoire, par exemple la question des ZAD. On en retrouve d'autres exemples ailleurs, hein, aux États-Unis ou dans d'autres pays, ou le phénomène de ces marches pour le climat qu'organisent les jeunes, des opérations de désobéissance, etc. Tout cela en parallèle avec ces phénomènes que nous avons mentionnés.
Oui, d'ailleurs, j'avais un petit peu regretté aussi de ne pas pouvoir absorber cette question des gilets jaunes dans le livre, mais peu importe, je le ferai plus tard.
Vous le ferez plus tard.
On a d'un côté ce soulèvement populaire incroyable, qui d'ailleurs n'est pas tout à fait terminé, qui va peut-être redémarrer. Ce qui met le feu aux poudres, c'est l'alignement de la fiscalité diesel sur le reste des fiscalités sur les carburants. Mais à la limite, même si le point de départ peut sembler anecdotique, les gens ont très bien senti que ce qui était touché, c'était leur capacité à se déplacer, à aller au travail, à aller chercher leurs enfants à l'école, et que le rêve social de la petite bourgeoisie pavillonnaire intégralement dépendante de la voiture et de l'univers urbain qui l'accompagne était touché. D'ailleurs, le fait que les gens soient rassemblés sur les ronds-points n'est pas du tout un hasard. Et puis parallèlement, ce dont la ZAD de Notre-Dame-des-Landes est l'exemple le plus manifeste, sont des mouvements de réappropriation de l'usage des terres, souvent contre des grands projets industriels ou d'équipements, en l'occurrence une infrastructure de transport, à l'occasion desquels des gens s'installant sur ces territoires s'adressent à l'État en leur disant « Vous ne savez pas gérer ce qui est pourtant votre territoire, ou ce que vous présentez comme étant votre territoire. Vous ne savez pas le faire parce que, par exemple, cette zone-là, eh bien, ce sont des zones humides qui requièrent certaines formes d'usage, il y a certaines cultures qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire, certaines formes de propriété qui sont adaptées, qui ne sont pas adaptées. Et ce qu'il y a d'intéressant dans la ZAD, c'est ça. En parallèle des gilets jaunes, c'est une adresse faite à l'État pour mauvaise gestion de sa propre promesse de garantir l'avenir, en fait.
Pour mauvaise compréhension, donc, de ce qui se passe sur notre territoire, et y compris sur mauvaise compréhension de la manière dont on devrait exercer l'économie dans notre pays.
Alors, effectivement, ça va de pair avec une remise en question plus générale de l'économie. On ne sait d'ailleurs pas encore exactement quel est le centre de gravité de cette remise en question. Les demandes de justice qui s'expriment chez les Gilets jaunes, les demandes de justice qui s'expriment dans les ZAD, et dans d'autres mouvements, ne sont pas tout à fait les mêmes. Et là, il y a un travail qui va peut-être être très long, espérons qu'il ne le soit pas trop, un travail de mise en forme, d'élaboration, intellectuelle certes, mais surtout sociale, pour que ces demandes se rassemblent, soient bien formulées, et surtout qu'elles atteignent la masse critique qui leur permet d'emporter une victoire.
La crise climatique actuelle, on va y revenir plus longuement, mais vous la faites remonter assez loin, en tout cas vous remontez aux sources de l'histoire, pas seulement économique d'ailleurs, mais beaucoup politique aussi, pour comprendre par exemple les empires pétroliers qui ont dominé l'économie mondiale, pour comprendre les luttes justement pour la justice environnementale qui commence à se faire sentir de plus en plus fort. Et il faut revenir, dites-vous, à l'agronomie, au droit, même à la pensée économique au XVIIe, XVIIIe siècle, au moins jusque là, au lien avec la nature.
Oui, alors évidemment, il y a toujours de multiples manières d'écrire l'histoire de cette crise. Et moi, il me semble que c'est très difficile d'appréhender correctement les choses si on ne se donne pas une focale assez longue, c'est-à-dire si on ne cherche pas à comprendre comment, on peut dire, les justifications idéologiques données au développement de cette économie qu'on peut appeler le capitalisme, ces justifications impliquaient déjà un certain usage de la terre. Il est tout à fait manifeste que, par exemple, la mise au point des formes de propriété qui dominent dans l'organisation capitaliste de l'économie concerne d'abord la propriété de la terre. le profit recherché, c'est d'abord la rente foncière, la structure sociologique qui est associée à cette émergence du capitalisme, c'est celle des sociétés agraires, où les classes dominantes sont les classes propriétaires, mais pas propriétaires de n'importe quoi, propriétaires de la terre. Donc, moi je pense que ce point de départ est utile, parce que c'est aussi le moment où se mettent en place les états territoriaux souverains qu'on connaît aujourd'hui, qui sont issus des grands traités de Westphalie au milieu du XVIIe siècle. Donc vous voyez, hein, l'état territorial, la souveraineté, le début des théories de la rente, ça c'est un peu plus tard, au XVIIIe siècle, des théories de la rente foncière, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est tout à fait significatif et qui laisse penser que entre l'organisation économique, la mise en forme de la société et les modes de relation à cette ressource clé qu'est la terre, sont pas du tout anodins. Donc moi j'ai choisi de repartir de là, dans cette histoire que j'essaye de faire de la crise climatique, écologique. Oui.
Avançons encore un petit peu jusqu'au 19e siècle, là, mieux connu parce qu'on fait souvent remonter le capitalisme, bien entendu, toute fin du 18e et surtout au 19e, l'ère industrielle et la crise industrielle aussi qui la suit. Mais pour vous, c'est pas forcément central, si tout de même.
C'est central, ça, je viens de vous dire.
Parce que vous venez de nous dire
faut,
que ça remonte,
au moins commencer
avant
l'ère industrielle. Ça ne veut pas dire que, évidemment, l'ère industrielle n'a pas de signification dans cette histoire. À partir du moment où le système économique et social est de plus en plus tributaire des énergies fossiles, et en l'occurrence au 19e, du charbon, ce qui est tout à fait fascinant quand on s'intéresse à la littérature politique et économique de l'époque, c'est que les mêmes justifications, disons idéologiques, des structures de propriété, des structures de territorialité, est en quelque sorte recyclée pour justifier une organisation de la division du travail et des modes de production qui n'a absolument plus rien à voir avec ce qu'on connaissait au 19e siècle. Il y a un historien anglais qui a très bien dit ça, en disant par exemple que Adam Smith, qu'on considère très souvent comme un des maîtres à penser du, disons, des libres marchés, du capitalisme, a fourni les justifications du capitalisme industriel en disant voilà, on va laisser l'offre et la demande se rencontrer librement dans des marchés, alors que lui, ce qu'il avait en tête, ça n'a absolument rien à voir avec cette organisation productive-là. Donc il y a un décalage entre les formes de justification et les formes d'emprise matérielle, tout à fait triviales en fait, qui sont mises en œuvre. C'est ce qui me fait penser que les justifications philosophiques, idéologiques traditionnelles du libéralisme, de Smith, de Ricardo, des grands classiques, de Malthus, ont été recyclées dans un monde qui n'était plus le même. Et ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête aussi.
Ce qui veut dire qu'on arrive maintenant à une troisième phase, donc, hein, puisque je résume ce monde terrien, agraire, hein, que vous avez mentionné, le monde industriel, mieux connu, très mécanique, qui engendrait de nouvelles formes aussi de conflictualité, bien entendu. Et puis, ce monde qui est devant nous maintenant, l'ère écologique, on va dire, un monde, vous dites, en train de sortir de ses gonds, mais dont on ne sait pas grand-chose, au fond. Si ce n'est que... on va continuer à poursuivre des idéaux de liberté, d'égalité, et peut-être chimériques.
C'est effectivement comme ça que j'ai construit mon raisonnement. Hein. L'histoire des sociétés modernes est parcourue de plein de tensions et de plein de ruptures, mais d'un point de vue matérialiste, écologique, elle est touchée par deux grands chocs. Le premier, c'est celui dont on vient de parler, le choc industriel, fossile, charbon. Et ce choc a provoqué ce que l'économiste que j'aime beaucoup, Karl Polanyi, appelait un contre-mouvement, c'est-à-dire la société identifie des pathologies, les pathologies liées en fait, disons, à l'exploitation capitaliste et à une certaine forme d'anomie individualiste, de choses comme ça, et répond à ce choc, bah, notamment en construisant l'état social, en fait, le droit du travail, les systèmes de santé, de retraite, d'éducation, qui permet de protéger la société contre ce que l'organisation industrielle et marchande a de plus corrosif.
Plus bon. Que ça, une réduction de la misère, alors là, sur l'étendue du XXe siècle, de la misère, de la maladie, voilà. De l'ignorance.
C'est vrai qu'on dit souvent que le capitalisme est responsable de la réduction de la misère. Il serait plus exact de dire que ce qui est responsable de la réduction de la misère, ce sont les mesures de protection sociale qui ont permis de
contre
rendre
le capitalisme donc,
disons,
de
vivable
le rendre acceptable.
Ou de faire de la masse gigantesque de richesses produites quelque chose qui soit un minimum socialement utile. Et puis je vous disais, donc, la modernité est en train d'être traversée par un second grand choc métabolique, matériel. On peut l'appeler changement climatique, mais c'est un petit peu réducteur. En réalité, ce sont tous les grands forçages géo-écologiques qui touchent les terres, les eaux, et puis les airs, hein, on peut dire le climat. Et ce second grand choc métabolique, il va bien falloir l'absorber, c'est-à-dire il va bien falloir le rendre compatible avec la poursuite des idéaux démocratiques, des idéaux de liberté et d'égalité. tout en sachant qu'on ne reviendra pas en arrière, c'est-à-dire que le carbone qui est dans l'atmosphère, que les terres qui sont perdues, que les espèces qui ont disparu, on ne les retrouvera pas. Mais il faut bien, en tout cas moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut que nous donnions un prolongement aux idéaux qui viennent des débuts de la modernité politique du XVIIe et XVIIIe siècle.
La question quand même, Pierre Charbonnier, c'est que c'est une vision, c'est compliqué, parce que si on a tous ces dangers devant nous, et on en a, je crois maintenant, préconscience, il est possible quand même, pour certains, pas pour tous, de vivre plutôt mieux dans un monde qui se dégrade. Et là, vous avez, je trouve ça très intéressant, vous mentionnez notamment les travaux de l'économiste Branko Milanovic, qui le montre, que les fruits de la croissance économique, disons ces deux dernières décennies, ont profité à une nouvelle classe moyenne. On pense à la Chine, par exemple. Mais le pendant, et là tout de suite, c'est que la dégradation, la pollution de l'environnement ont continué.
Oui,
alors en même
ça,
temps.
C'est une bonne manière.
C'est un paradoxe quand même.
C'est un paradoxe et c'est une bonne manière de décrire l'étau dans lequel on est pris.
La Chine est un bel exemple.
À bien des égards, pour de très nombreuses régions du monde, à l'exception en fait des plus riches, donc de la nôtre, la croissance constitue encore à la fois un objectif économique, on pourrait dire crédible, et un réel support d'amélioration de la condition collective et notamment de la condition des plus pauvres. Ce sont des données qui sont extrêmement mises en avant par la Banque mondiale, par exemple, par tout un tas d'organisations supranationales qui gèrent les grands flux de capitaux vers les régions en développement. De l'autre côté, on sait bien aussi que, vous preniez l'exemple de ce qu'explique Branko Milanovic, les catégories de population qui ont le plus profité, mis à part les 1%, qui sont ceux qui ont vraiment le plus profité.
Les ultra-riches.
Le reste qui en ont quand même profité plus que la classe moyenne occidentale américaine, sont aussi celles qui sont quasiment le plus victimes de ces formes de développement pathologique, où en fait on a une accumulation extraordinaire de richesses qui ne va pas nécessairement de pair, ni avec le progrès des institutions démocratiques, je pense que le cas de la Chine est quand même assez exemplaire, ni avec, on pourrait dire, une amélioration des conditions matérielles. Vous allez à Pékin, prenez le cas de Delhi en ce moment.
Les taux de pollution dans les villes, c'est terrible.
Les rendent quasiment invivables. Et c'est toujours plus invivable pour les pauvres que pour les riches, parce que les riches, ils restent chez eux, ils mettent la clim, et puis ils ont des...
Ils purifient l'air, etc.
Mais en attendant, cette croissance-là est quand même quelque chose qui peut faire l'objet d'une discussion.
Et revoir sans ce que l'on donne, alors du coup, la liberté, où se trouve-t-elle dans tout cela? Parce qu'on peut acquérir une certaine forme de liberté avec les progrès matériels, mais elle disparaît nettement lorsqu'il y a cette dépendance écologique, et donc économique.
Alors,
c'est ça, au fond, que vous souhaitez.
Alors là, vraiment, on parle philosophie, c'est-à-dire...
Là, c'est le philosophe qui parle, voilà.
Pour nous, en philosophie politique, moi, je pense que c'est une des questions les plus intrigantes qu'on puisse se poser aujourd'hui. Cet idéal d'émancipation collective, de conquête de l'autonomie, de liberté, qu'on aime dire qu'elle nous vient du XVIIIe siècle, peu importe à la limite d'où elle nous vient, elle s'est construite, je vous le disais tout à l'heure, dans un monde essentiellement organique, agraire, terrien. L'essentiel des théories de l'émancipation, à la fois individuelle et collective, nous dit à l'époque, on a notre lopin de terre, on le met en valeur, on le cultive, on noue des liens marchands avec nos voisins et on devient libre. Et riche, en même temps. Ensuite, la société industrielle émerge. On réadapte l'argument en disant, bon, la division du travail augmente, il y a des ouvriers, beaucoup de souffrances, beaucoup de maladies, ils meurent très jeunes, etc. Mais on va resocialiser l'économie avec du droit social. On y arrive. On arrive à maintenir ce pacte entre progrès social, politique et croissance, développement matériel. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Ce vieux pacte que dans le livre j'appelle le pacte libéral, il est rompu. D'ailleurs, ce qu'on disait tout à l'heure, on prend l'exemple de Trump ou de Bolsonaro, c'est la preuve. C'est-à-dire, si vous voulez garder la croissance fossile, vous êtes obligé de vous défaire des bases de la démocratie. Moi, je pense que la réciproque est vraie. Si vous voulez maintenir une organisation démocratique, par exemple, écouter les demandes de justice des Gilets jaunes ou d'autres groupes sociaux, eh bien, il faut laisser tomber. À la limite, la croissance, peu importe, ce qu'il faut laisser tomber, c'est cette idée que nous soyons pris par les injonctions à l'accroissement de notre charge matérielle.
Au nom de la liberté, en plus.
Au nom de la liberté.
I hate the capitalist system, and I'll tell you the reason why. It has caused me so much suffering, and my dearest friends to die. all are wondering what it has done to me. Well, I am going to tell you that my husband has TB, brought on by hard work and low wages and never enough to eat, from going cold and hungry with no shoes upon his feet. My husband was a coal miner who worked hard and risked his life just trying to support three children, himself, his mother and wife.
France Culture, Matière à penser, Dominique Rousset.
En compagnie du philosophe Pierre Charbonnier, et nous parlons du capitalisme, est-il soluble dans le 21e siècle? Pierre Charbonnier questionne ces propos-là, le rapport aussi entre les sciences sociales et les questions environnementales qui est au cœur de son travail, et qui est un travail assez politique finalement, hein, ce qu'il souhaite, d'ailleurs il le dit dans le livre qu'il prépare pour janvier, il souhaite politiser le plus possible ce débat environnemental. C'est bien cela, Pierre Charbonnier, votre propos?
Oui, tout à fait, c'est vrai que bon, l'écologie est restée très longtemps, trop longtemps à la marge des grandes questions sociales, et longtemps apparue comme ce qu'on appelait à l'époque les fronts secondaires, hein, secondaires par rapport à la question ouvrière. Hein. Et ça, je pense, c'est une époque de la politisation qui doit s'arrêter.
C'est Barbara Dale que nous entendions, et vous savez ce qu'elle dit, vous l'avez sûrement compris, « I hate capitalism ». Je n'aime pas beaucoup, je déteste même le capitalisme. C'est tel qu'il dit. Vision politique, Pierre Charbonnier, vous avez aussi étudié ces rapports, c'est tout à fait intéressant, capitalisme, écologie, d'accord, mais en passant par les enseignements du socialisme, la régulation par le marché, le passé, d'accord, on a parlé du 18e, du 19e siècle, des grands points de passage. Il y a évidemment Marx, Keynes, mais vous faites une comparaison assez riche, je trouve, entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'a connu le socialisme il y a déjà deux siècles.
Oui, pas tout à fait deux siècles.
Pas tout à fait, d'ailleurs, c'est vrai.
Oui, ce qui est intéressant et important, c'est de noter que, je vous disais tout à l'heure, hein, les sociétés modernes subissent ce grand choc matériel de l'industrialisation, et elles y répondent en partie en socialisant l'économie, ou comme dit Polanyi, en réencastrant en partie les institutions économiques dans la société, c'est-à-dire en évitant que l'intégralité des rapports sociaux prenne la forme d'un marché. Ça, c'était l'utopie libérale, mais cette utopie libérale, on s'est aperçu très vite qu'elle avait un effet tellement corrosif sur le corps social qu'il fallait la limiter, la contraindre, la discipliner. En fait, ça a pris un temps fou, cette histoire. Parce que entre les premières révoltes du début du 19e siècle, enfin, premier tiers du 19e siècle, et vraiment la mise en forme de l'État social, c'est quasiment un siècle. Mais il y a ce contre-mouvement qui permet d'introduire de la justice sociale dans cette organisation productive. Tout le problème, c'est que le mouvement socialiste est entièrement tributaire de cette relation d'intensification productive avec la nature, avec les ressources. On le voit très bien, par exemple, dans l'État social. Pour financer l'État social, il faut générer beaucoup de richesses. Et pour générer beaucoup de richesses, c'est pas une nécessité absolue, mais il se trouve que les États sont contraints de laisser un minimum libre cours à l'accumulation capitaliste. Donc, il y a un effet de dépendance mutuelle entre les intérêts capitalistes, l'accroissement de la relation productive à la nature et le financement d'un système de santé, de protection sociale, de retraite, d'éducation aussi, bref, les bases du pacte social. Ça, c'est l'héritage, disons socialiste, social-démocrate. Maintenant, si on dit il faut maintenir ces dispositifs de protection qui garantissent un futur vivable, tout en freinant la machine économique, parce que l'état de la planète nous le demande, mais aussi, d'une certaine manière, l'état social nous le demande, alors là, le jeu devient extrêmement complexe. On a beaucoup entendu ces derniers temps les slogans, enfin très intéressants, très justes, fin du monde, fin du mois, même combat, des choses comme ça. C'est vrai, j'adhère totalement. Le problème, c'est que répondre à la question de la fin du monde, entre guillemets, hein, c'est pas vraiment la fin du monde, mais peu importe, répondre à cette question-là tout en maintenant le cap de la justice sociale, c'est-à-dire en fait de la redistribution de la richesse et des moyens d'accès à la, on peut dire, à la dignité sociale, c'est très compliqué parce qu'il faut réinventer la protection de la société par elle-même sans ce support matériel, disons, productiviste. Et ça, je crois que pas grand monde ne sait, et moi y compris d'ailleurs, comment faire.
Revenons à Marx, juste, parce que, bon, quand même, naissance du socialisme et tout ce que vous avez dit à l'instant. Pourquoi certains disent que Marx, alors que quand même, on ne voit pas bien une prise de conscience ou une mention des destructions environnementales de son temps, mais pourquoi dit-on aujourd'hui que Marx aurait peut-être inventé quand même les préoccupations écologiques environnementales?
Bon, ça, alors, c'est
vrai. Il y a tout un courant qui commence à le mettre en avant.
Qui veulent sauver Marx. On a toujours essayé de sauver Marx en fonction des considérations du présent. Et c'est vrai qu'on trouve, par exemple, au milieu des années 60, avec Engels, ils avaient découvert, en fait, la chimie agricole allemande, de gens comme Liebig, qui étaient des gens qui avaient, on peut dire, tiré une sonnette d'alarme sur l'épuisement de la fertilité des sols sous l'effet de l'industrialisation de l'agriculture, c'est-à-dire tout ce qu'on prend à la terre mais qu'on ne lui rend pas. Déséquilibre le bilan métabolique des sociétés. Ça, Marx en a pris conscience, en fait, à un moment où il était en train de finir le Capital, mais c'est pas vraiment incorporé à sa réflexion. Parallèlement à ça, il faut dire surtout que Marx, qui est un élève de Hegel, déteste la nature. Marx, c'est quelqu'un pour qui la conquête de l'autonomie et la, ce qu'il appelle la praxis révolutionnaire, dépend de la capacité collective
à dominer la nature.
C'est pas forcément le mot qu'il emploie. Mais à intérioriser dans le monde social et à digérer toute extériorité à travers la technique, l'organisation productive et l'émancipation des classes subalternes. Il est absolument évident, c'est écrit noir sur blanc dans le manifeste coécrit avec Engels, qu'elle dépend de cette capacité à réarranger la terre, capacité qu'il prête d'abord à la bourgeoisie et que les classes subalternes ouvrières doivent se réapproprier. Donc, il n'y a pas le moindre doute sur le fait que Marx, non seulement n'est pas écologiste, mais un philosophe pour qui la relation productive est la clé de toute sa pensée. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant dans la perspective d'une critique écologique de l'économie. Au contraire, c'est même ça qui le rend très intéressant. C'est parce que ce que nous permet de comprendre Marx, c'est que toute la pensée de l'autoprotection de la société contre le capitalisme au 19e et pendant une bonne partie du 20e, est tributaire de la relation productive. Et que ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un truc que m'avait dit un jour Bruno Latour, mais il avait raison, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est Marx sans la production. C'est-à-dire la capacité à mettre en forme intellectuellement et socialement les demandes de justice et d'égalité sans présumer que ça passera par l'intensification de la relation productive. Ouais. Ça, vous voyez, là encore, c'est de la philosophie. Là, on est dans un problème à la fois théorique et intrinsèquement politique aussi.
Vous avez dit, Pierre Charbonnier, il faut le socialisme a eu besoin de quasiment deux siècles pour se structurer, pour identifier ses ennemis et apprendre de ses défaites. Est-ce que l'écologie n'aurait pas besoin, elle aussi, d'un peu de temps pour identifier ses ennemis et apprendre de ses défaites? Elle est peut-être dans cette phase un peu infantile, là encore je reprends votre adjectif, ce n'est pas le mien. Elle aurait besoin de se structurer davantage pour éviter certains écueils. On parle par exemple de néo-malthusianisme, l'idée de la bombe démographique qui poserait un énorme problème, c'est un énorme problème d'ailleurs, mais qui véhiculerait parfois des visions très presque eugénistes.
C'est vrai que dans la grande famille de l'écologie politique, on peut mettre beaucoup de choses. Il y a effectivement des écologies politiques néo-malthusiennes, on va dire, qui sont essentiellement effrayées par la prolifération des pauvres. Alors que, bon, c'est plutôt la prolifération des riches le problème.
En tout cas, elles causent plus de dégâts, c'est ce que
voilà,
vous voulez dire.
Oui. Il y a une écologie clairement réactionnaire aussi. Et d'ailleurs, c'est la nouvelle vague idéologique à laquelle il faut se préparer. Hein. C'est l'appropriation du problème écologique par l'extrême droite qui va nous dire qu'elle va régler en même temps le problème migratoire et le problème écologique en fermant les frontières. Purement et simplement. Donc là, une sorte de souverainisme rematérialisé dont le fond criminel est évident. Il y a une écologie libérale, celle qui est au gouvernement actuellement, qui nous dit c'est l'innovation technologique qui va régler les problèmes. À côté de ça, il faut que l'écologie, sociale, d'héritage socialiste, trouve ses forces. Qu'elle trouve ses forces, à la fois intellectuellement, mais aussi dans la mise en œuvre d'un front social qui intègre les luttes populaires aussi. Et c'est ce qu'elle n'a jamais réellement su faire et ce qu'elle ne s'est toujours pas bien faire. Ça, ce sont des problèmes, disons, essentiellement occidentaux. Parce que si on prend l'exemple des luttes sociales en Inde, en Amérique latine, mais aussi en Afrique, ce sont des régions du monde où, en fait, la dissociation entre les luttes pour la justice sociale et les luttes pour la qualité environnementale n'a jamais existé. Cette dissociation, en fait, elle est propre aux pays les plus riches. Et il faut que nous passions outre, en partie aussi en se décentrant notre vision un petit peu trop centrée sur l'Europe.
Est-ce qu'il y a aussi une écologie plus libérale, c'est-à-dire qui dirait qu'il faut passer par le marché, que de toute façon, seul le marché peut arriver à réguler les excès des pollutions, les excès des risques écologiques, des grandes catastrophes que l'on pourrait mieux prévenir?
Alors, ce discours existe, mais en réalité, ce qui est affreusement compliqué, c'est que le marché, c'est une création juridique qui n'existe pas sans l'intervention active des États. Pour citer encore mon cher Karl Polanyi, il disait « Le laisser-faire a été planifié et le contre-mouvement socialiste, lui, est la véritable spontanéité historique. » Pour faire des marchés libres, enfin, pour prétendre faire des marchés libres, il faut des élaborations juridiques extraordinaires. Les traités commerciaux aujourd'hui qui permettent soi-disant de mettre en œuvre le libre marché, ces documents de plusieurs milliers de pages qui ne peuvent être compris que par des experts juridiques triés sur le volet. C'est ça, en fait, un marché libre, c'est ça, c'est l'effet de ça. Et typiquement, le problème de l'économie, par exemple, des ressources, est qu'elle n'a rien à voir avec le marché. Des calculs avaient été faits par des membres du FMI il y a quelques temps, ils montrent que plusieurs millions de milliards de dollars sont investis dans le soutien aux énergies fossiles. À peu près 5% de la richesse mondiale. C'est extraordinaire.
Encore aujourd'hui.
Encore aujourd'hui.
En dépit de tous les discours qui sont tenus ici et là.
Le problème de cette économie-là, c'est qu'elle se prétend être un marché, mais c'est un marché extrêmement subventionné. Les repères conceptuels habituels sont complètement bouleversés par le fait que les États les plus riches sont prêts à tout pour ne pas changer de modèle économique, y compris à perdre de l'argent. Je ne veux pas du tout dire par là qu'en fait, il faut défendre le marché avec un bon marché, on va passer au renouvelable très vite. Pas du tout. Mais le concept de marché, là encore, il est un petit peu difficile à manipuler.
Si l'on va un petit peu plus loin, comment sortir au fond de toutes ces difficultés? Si on veut sortir par le haut, est-ce qu'il faut revenir, je ne sais pas, à une nouvelle relation avec la Terre, repartir du modèle agraire dont vous nous parliez au début, arriver à retrouver le territoire, puisque vous avez parlé de ces nouvelles formes sociales, avec les ZAD par exemple, mais qui est peut-être un petit phénomène, mais qui a du sens?
Oui, alors c'est incontestable que la question territoriale est en train de jouer un rôle clé dans la redéfinition des grands clivages politiques présents et de l'avenir. Je pense qu'on voit assez bien se dégager aujourd'hui au moins deux grands fronts idéologiques. Il y a le front, disons, libéral qui s'auto-qualifie de progressiste. Hein, c'est celui qui est au pouvoir quasiment partout, enfin quoique de moins en moins. En tout cas, il est au pouvoir en France. Il y a un grand front qui se prétend être le seul opposant valable, qui est le front souverainiste, identitaire, conservateur, enfin, qui a plusieurs expressions, mais on peut l'identifier à peu près comme ça. Et il faut qu'en face de ces deux fronts-là, en apparaisse un troisième, et c'est toujours le problème avec la pensée critique, en fait c'est toujours le problème avec la gauche, c'est qu'elle est toujours en retard d'un coup dans l'histoire, mais essayons de ne pas être trop en retard, et que ce troisième front se constitue précisément autour de la réinvention du projet d'émancipation collective lié à des échelles territoriales pas forcément ajustées à la nation. Ça peut être des échelles biorégionales, urbaines, des communes, des ZAD, toutes sortes de supports matériels et territoriaux à l'intérieur desquels on voit émerger des demandes de justice compatibles avec les objectifs écologiques. Ça qui est fondamental. Et que ces zones d'expérimentation, ces zones de remise en question des grandes formes juridiques, de la propriété, de l'exploitation, convergent dans une fédération. Il y a des gens qui parlent d'écosocialisme, c'est un terme que j'aime pas trop, mais peu importe, disons, qui arrivent à conjoindre les demandes de justice sociale et la garantie d'un avenir.
Le rôle des intellectuels dans ce processus-là, est-ce qu'on l'a un peu perdu de vue avec le triomphe du capitalisme? Est-ce qu'on a un peu oublié ce rapport nécessaire entre les intellectuels au sens large, hein, y compris les philosophes bien sûr, et le terrain?
Oh, ça, bon, comptez pas sur moi pour dire que les intellectuels ont été oubliés et qu'il faut nous réécouter. Parce
on va pas
fait,
vous
sait,
plaindre non plus.
Je ne pense pas du tout. Il y a toujours eu des intellectuels, plus ou moins bons, plus ou moins mauvais. On s'est débarrassé des grandes figures, des dieux intellectuels, comme à l'époque de Foucault ou Deleuze. C'est une excellente chose. Aujourd'hui, nous sommes des centaines, des milliers à faire des travaux peut-être d'ampleur un peu plus modeste.
Et mais on sur ces questions-là, à les
sur
faire
ces questions-là,
et à
sûr,
les enseigner.
Nous les enseignons, nous essayons de former des gens, nous essayons, comme je suis en train de faire là, de créer du débat sur ces questions. Donc, c'est pas du tout les intellectuels qui sauveront le monde, et encore moins les philosophes. Les philosophes au pouvoir, il n'y a rien de pire.
C'est vous qui le dites.
Oui, c'est moi qui le dis, j'assume. Donc, non, y a un travail, disons, d'élaboration intellectuelle qui est produit, y compris par les mouvements sociaux. Donc, c'est ça l'essentiel, en réalité.
Bien, vous faites aussi état, donc on l'a dit, d'un rapport manqué entre socialisme et écologie. Si on avance un petit peu, l'autre discours, donc celui de la question démocratique, moins visible, dites-vous, il faut de grandes réformes d'infrastructures. Alors on a cité les exemples de ces dirigeants tout à fait atypiques et en même temps très symboliques de la période. Qu'est-ce que c'est qu'une sobriété démocratique, au fond? En quoi comment serait-elle idéalement pour vous?
Je pense que déjà, c'est un effort de redéfinition de ce que c'est qu'une démocratie. On s'est beaucoup habitué à l'idée que l'espace démocratique, c'est l'espace de l'usage public de la raison. Sont les forums de délibération collective où on arrive dans la discussion à déterminer des fins et des moyens. C'est les travaux d'Habermas, par exemple, les théories de la justice de Rawls. C'est des choses, en fait, c'est des conceptions intersubjective, interhumaine de la démocratie. Moi, mon travail consiste à dire la démocratie, c'est pas seulement une manière d'arranger les volontés les unes avec les autres, c'est une manière d'arranger les volontés les unes avec les autres dans un contexte écologique, matériel, précis, avec des appuis sur la connaissance de la terre, des ressources, des machines, des sciences, des territoires. La démocratie, elle est là. C'est pour ça que j'insistais beaucoup sur le fait qu'il y avait des appuis d'abord agraires, puis des appuis industriels, technologiques, scientifiques. Et aujourd'hui, le meilleur appui, dont on dispose pour créer de la démocratie, c'est la crise écologique. C'est la crise climatique, c'est l'effondrement de la biodiversité, parce que c'est ça qui nous permet de dire nous sommes dans une situation pathologique, sachons l'identifier et sachons mener notre autocritique pour reconstruire cette idéal collectif d'égalité et de liberté qui, je pense, soutient encore, doit encore soutenir les institutions démocratiques. Ça peut apparaître parfois comme radical parce que ça veut dire qu'il faut fermer la boutique du business fossile, ça veut dire qu'il faut intégralement changer le mode de financement de la vie politique qui est beaucoup trop sensible aux lobbies. En fait, ça a beaucoup de conséquences, appelons-les anticapitalistes, mais d'un autre côté, c'est parfaitement modéré et raisonnable parce que c'est les conditions auxquelles on peut maintenir un minimum de justice sociale.
Mais alors si on va encore plus loin, on aura l'occasion avec un économiste cette fois, Éloi Laurent, que nous recevrons également, de parler de fin de la croissance, voire de décroissance. Il faudra faire la distinction entre les deux termes sans aller très directement sur ce terme-là. Mais quand même, pensez à une autre idée de la croissance. Pensez autrement, que ça n'est plus une évidence la croissance. Est-ce que ça va permettre au moins d'essayer de s'en passer, de votre point de vue?
Alors, c'est une question compliquée parce que depuis très longtemps, des économistes, dont d'ailleurs Éloi Laurent, essayent de mettre au point des indicateurs économiques alternatifs à l'indicateur suprême du PIB qui mesure la croissance. Donc, des indices de développement humain, notamment, des choses comme ça. C'est très intéressant. Le problème est que ça fait déjà longtemps qu'on essaye, que ça n'aboutit pas vraiment. Moi, je pense qu'il faut arriver à comprendre que le lien entre démocratisation et croissance est relativement récent. Il n'a que quelques siècles. Il est très précaire. Il a souvent été remis en question. Et comme toutes les choses récentes et précaires, il peut parfaitement s'effacer. D'ailleurs, si vous lisez les économistes du 19e siècle, vous verrez qu'en fait, il était assez évident pour eux que la croissance était un phénomène temporaire lié à l'innovation technologique.
On parle de post-croissance.
Au gain de productivité lié à la division du travail et qu'on allait forcément atteindre un seuil et à un moment donné où l'économie allait devenir stationnaire. Mill, qui est pourtant un libéral, le disait. Il y a un texte formidable de Keynes, la lettre à ses petits-enfants, où il dit, il y a un moment donné, on va atteindre en fait un plafond en termes de gain de productivité, à la fois en termes de division du travail et d'innovation technologique. Et il va falloir qu'on fasse autre chose de nos pulsions d'acquisition, qu'on les investisse dans d'autres choses. Je pense qu'ils avaient raison, et à ce stade, nous y sommes arrivés, en tout cas dans les pays les plus riches, nous y sommes arrivés, et donc il faut que nous inventions d'autres objectifs pour la régulation économique. La question se pose de manière très différente hein, dans des régions du monde où les infrastructures technologiques sont pas au même niveau de fluidité, mais rien que, par exemple, l'effort en termes de travail à réaliser pour entretenir les infrastructures, pour entretenir les grands cycles bio-géo-écologiques, demande énormément de travail. Passer d'un régime de production à un régime, on pourrait dire, de reproduction ou de projection dans l'avenir, ça va nous occuper. Ça va peut-être créer moins de richesses, mais ça va surtout créer moins de pathologies matérielles et sociales. Et tout le problème, bon, ça c'est un propos de philosophe, mais tout le problème est de savoir comment le faire aboutir sous la forme de débats publics, de volonté collective. Ça, j'avoue que nous n'y sommes pas. On y travaille.
Mais nous n'y sommes pas encore. Mais la question écologique, dans ce que vous dites, nous semble nous ramène à nouveau aux espaces, mais aux territoires surtout. Par exemple, les énergies renouvelables, puisqu'on a condamné les énergies fossiles. Pour vous, l'intérêt de l'énergie renouvelable, avec tous les défauts qu'il peut y avoir, hein, si on parle de solaire, d'éolien, on sait que ça n'est pas parfait, ou pas encore, du moins on espère que ça pourra le devenir, mais c'est quand même quelque chose qui a l'avantage de nous ramener sur le local, sur le territoire.
Oui. Alors d'abord, il n'y a aucun système énergétique parfait. Tous les systèmes énergétiques demandent de l'usage de ressources, consomment de l'espace. La seule énergie parfaite, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Hein. Mais effectivement, les énergies renouvelables, ce qu'on considère souvent comme leurs défauts, sont en fait des qualités. Le fait que ça consomme plus d'espace. Il faut installer des éoliennes, du panneau solaire, des méthaniseurs, des choses comme ça. Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui parfois se disent écologistes d'ailleurs, disent « Ah ben, on ne veut pas de ces équipements-là dans notre jardin, on ne les veut pas sous nos fenêtres, c'est moche, c'est bruyant, etc. » C'est vrai que c'est assez moche, parfois
assez
bruyant, parfois odorant, parfois bon voilà. Mais en attendant, ça nous permet de nous rendre compte que notre mode de vie a un certain coût écologique et que ce coût écologique-là, s'il est sous nos fenêtres, c'est une incitation énorme pour en changer. Parce que la grande caractéristique politique du fossile et surtout du nucléaire, la France est un pays très nucléarisé, c'est que c'est pas invisible mais quasiment invisible. Il y a, je crois, une douzaine de centrales nucléaires en France. Et avec ça, on fait l'électricité pour tout le pays, et même un peu plus, on en exporte. Donc on ne la voit pas. C'est magique, on appuie sur le bouton, ça marche. Si on commence à avoir des trucs qui tournent, des trucs qui brûlent, des forages, un petit peu plus près de nous, on va se rendre compte de ce que c'est. Même chose pour l'entretien de l'eau, même chose pour, en fait, pour tout l'entretien de cette grande technostructure dont nous dépendons et dont nos idéaux politiques dépendent aussi. Donc il faut avoir un très grand soin pour cette technostructure parce qu'elle est extrêmement politique.
Et qu'elle nous oblige à faire peut-être société, en tout cas à en parler entre nous.
Exactement.
Pour mieux dominer tout ce qui nous arrive. Eh bien merci beaucoup Pierre Charbonnier, philosophe donc et qui a déjà publié plusieurs ouvrages. J'ai mentionné le tout premier à partir de sa thèse et je voudrais rappeler celui dont nous sommes beaucoup servis. Tout de suite, Abondance et Liberté. C'est à paraître en janvier 2020. Merci encore.
Merci.
C'était donc le troisième volet de notre série « Le capitalisme est-il soluble dans le 21e siècle ?» Quatrième numéro, ce sera demain avec une sociologue cette fois, Sarah Abdelnour. Merci à notre équipe de ce soir, Anne-Laure Chanel en compagnie d'Éric Carrère, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet et Justine Wild pour la préparation et pour la documentation. À demain.